Bonsoir, vous écoutez un épisode hors série de Proxy Jeux, l'enregistrement du Meetup Gaming Lab du lundi 11 février 2019. Gaming Lab est un programme de soutien à la recherche sur le jeu de société, à l'initiative du département Asmodée Research du groupe Asmodée. Des conférences sont régulièrement organisées, et l'équipe Gaming Lab nous a proposé d'animer et d'enregistrer la mini-conférence qui a eu lieu au bar ludique La Revanche à Paris le lundi 11 février 2019 sur le thème « Jeu et apprentissage, quel apport des neurosciences ?» C'est parti pour la retransmission.
Donc, bonsoir, bienvenue à ce deuxième meet-up du Gaming Lab sur un sujet assez vaste, « Jeu et apprentissage, apport des neurosciences ». Tout d'abord, Gaming Lab, c'est un programme qui continue, c'est le deuxième meet-up. Il y aura bientôt un cycle de conférences au Festival international des Jeux de Cannes dans deux semaines. C'est un programme qui souhaite se faire rencontrer les différents acteurs du monde ludique et les acteurs de la recherche. Donc aujourd'hui, on a trois intervenants qui vont nous exposer leur point de vue sur ce sujet. On peut déjà remarquer que le Gaming Lab s'ouvre en venant aujourd'hui dans un bar ludique, donc un bar où d'habitude, c'est plutôt des joueurs acharnés. Donc merci Patrice pour l'accueil à La Revanche. Ensuite, synonyme aussi de cette ouverture, moi, Thomas, et mes deux compères derrière, Guillaume et Ben, nous sommes du podcast Proxy Jeux. Donc, c'est un podcast amateur sur le jeu de société où on fait toutes sortes de programmes audio sur le sujet du jeu. Et on va enregistrer ce que je vous disais à l'instant, toutes les interventions de ce soir, de manière à pouvoir les diffuser par la suite sur notre podcast. Donc, le lien sera bien sûr dans la référence de l'article sur le site de Gaming Lab. Pour parler du sujet qui nous occupe ce soir, alors déjà, les neurosciences, un domaine très en vogue, très à la mode, avec des promesses assez folles, de mieux comprendre le cerveau, de décortiquer la boîte noire qu'est le cerveau, et puis par là, de mieux comprendre l'esprit humain, comment pense-t-on, comment agit-on, comment réfléchissons-nous. Et les neurosciences arrivent avec tout un lot de protocoles, d'expérimentations et de méthodes d'analyse pour mesurer le fonctionnement du cerveau. Un des premiers secteurs qui s'en saisissent, les sciences de l'apprentissage, les sciences de l'éducation, avec l'envie, la volonté de comprendre comment on apprend, qu'est-ce qu'on apprend, et comment on mesure les conditions de l'apprentissage et le succès de l'apprentissage. Et le troisième sujet qui vient faire la boucle avec ces deux premiers sujets, c'est donc le jeu, donc un élément qui est lui aussi bien mystérieux. Et on va essayer de voir ce soir ce que les neurosciences et ce que l'apprentissage viennent collaborer et se mettre en scène dans le monde du jeu. Donc je vais donner successivement la parole aux trois intervenants de ce soir que je vais présenter dans un instant. Et puis ensuite, on pourra faire un peu d'échange avec la salle, avec vos commentaires et avec vos questions. OK ? Donc on va commencer par vous. Donc Nawal Aboub, vous êtes docteur en neurosciences, cofondatrice et CSO de la société Rising Up. Pour commencer, en quelques mots, les neurosciences, qu'est-ce que c'est exactement ? Pourquoi l'engouement actuel ?
C'est une bonne question. Pour un peu reclarifier, les neurosciences, c'est l'étude du système nerveux. Alors la question, c'est le système nerveux, est-ce que c'est juste le cerveau ? Juste l'encéphale, le truc qu'il y a au-dessus ? Bah, pas forcément, en fait. Les neurosciences, ça étudie notre système nerveux, donc l'encéphale, notre cerveau, plus après toutes les ramifications, donc la moelle épinière et toutes les terminaisons nerveuses. Donc il y a des chercheurs en neurosciences qui travaillent sur le neurone, mais qui n'a rien à voir avec la cognition ou avec le cerveau. Donc c'est aussi ça l'idée des effets de mode, c'est que c'est une science où on se dit oui, une neuroscience, mais on peut travailler en neuroscience sans jamais penser une seule fois à comment, pourquoi on a raisonné comme ça ou pourquoi on a pris cette décision. Donc souvent les confondants qu'on peut faire, c'est neurosciences et neurosciences cognitives, donc les neurosciences qui s'intéressent à nos fonctions cognitives. Et c'est plutôt celles-ci qui sont à la mode. Et elles sont à la mode parce qu'on a fait des bonds de géants dans les avancées technologiques qui nous ont permis de savoir un peu plus ce qu'il y avait dans cette boîte noire, quoi. Comment du coup notre cerveau traitait l'information. C'est un peu ça la définition qu'on peut donner aux neurosciences cognitives, c'est comment notre cerveau va traiter une information et va répondre et va agir sur le monde. C'est un peu ça, du coup, pour faire un peu le lien et surtout éviter les confondants un peu trop à la mode de neurosciences.
Et dans ce domaine des sciences cognitives, qu'est-ce qu'on a comme premiers apports ou comme première méthode de dispositif ou d'analyse par rapport aux sciences de l'apprentissage ?
Alors, en sciences cognitives, du coup, les sciences cognitives, ça regroupe Les neurosciences cognitives, ça regroupe la sociologie, ça regroupe la psychologie cognitive, c'est un ensemble de domaines qui nous permettent d'accéder un peu plus à comment notre cerveau fonctionne. Et donc c'est pour ça que comme c'est un objet très complexe, il nous faut plein d'expertise pour pouvoir faire ça. Donc c'est pour ça que les sciences cognitives dans son ensemble, c'est en général ça qui va apporter encore plus de réponses sur les questions d'éducation, plus que les neurosciences en elles-mêmes toutes seules dans un coin. Et du coup, les outils qui nous permettent de pouvoir voir ça, c'est un peu les outils d'imagerie cérébrale. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'IRM, les espèces de gros tubes là, aimants qui font un peu peur, enfin moi je peux pas monter dedans, et ou le EEG, qui sont des méthodes en fait qui permettent d'enregistrer l'activité cérébrale de manière indirecte, soit par électricité parce que nos neurones fonctionnent par électricité, ou via l'oxygénation du sang. Bon, on va pas forcément rentrer dans ces détails là, mais ça nous permet un peu plus de comprendre où est-ce que ça se passe, comment ça se passe et quand ça se passe, quand on voit quelque chose devant nous, par exemple, ou quand quelqu'un est en train de nous parler, ou quand je suis en train de jouer, ou quand je suis curieux et que je cherche une réponse. Donc, on va dire que les sciences cognitives dans son ensemble nous permettent d'accéder un peu plus à ce qui se passe pour analyser concrètement comment on traite ça, comment on y répond, pourquoi on y répond comme ça. Alors, on n'a pas encore toutes les réponses. On tend à comprendre un peu plus certains mécanismes, mais c'est une science qui est en train d'exploser. Mais on n'en est qu'au début, parce que finalement, ces méthodes-là, les premiers papiers d'IRM, ça date de quoi? 92, 93, 94? C'est quand même assez récent. Donc, mais ça nous apporte quand même, ça nous a apporté des réponses assez folles par rapport à l'apprentissage. Ouais.
Est-ce que Vincent Berry, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 13, spécialiste dans la sociologie du jeu et la culture ludique contemporaine, auteur entre autres de l'expérience virtuelle, jouer, oui. Vivre, apprendre dans un jeu vidéo. Je ne sais pas si vous voulez réagir à la...
Oui, en fait, pour les sociologues, donc moi je suis très éloigné des questions des neurosciences, après elles arrivent en fait sur des terrains qui sont quand même balisés depuis longtemps par l'anthropologie ou la sociologie, avec parfois des effets de confirmation de choses que des anthropologues ou même des pédagogues, je pense surtout en éducation, quand on voit aujourd'hui les prescriptions, ça confirme certaines intuitions ou certaines observations. Après, ce qui enlève rien à la sociologie, c'est qu'au fond, la question du jeu reste une construction sociale, hein. C'est-à-dire c'est une catégorie qu'on produit, qui évolue dans le temps, qui évolue donc selon les milieux sociaux, qui évolue dans l'histoire, des choses qui sont appelées jeux et puis d'autres qui ne le sont pas. Et donc du coup, il me semble que cette complémentarité qu'on pourra avoir, c'est-à-dire qu'au fond, vous regardez ce qui se passe quand les gens jouent, et nous, on s'intéresse à la façon, pourquoi des gens jouent à ça et pas à autre chose, et pourquoi des gens ne jouent pas aussi, ne s'engagent pas dans l'activité ludique. Donc mon regard, parce qu'il y a quand même une tension des neurosciences, les neurosciences sont partout, mon regard est plutôt... ni bienveillant ni critique, c'est d'essayer de voir à quel moment on peut compléter en fait nos approches disciplinaires.
Et est-ce que vous avez des exemples aujourd'hui des exemples plus concrets à nous donner de ce que les neurosciences apportent à la théorie de l'apprentissage?
Alors, ça serait difficile de vous répondre de manière simple parce que c'est une question très complexe. Mais par contre, je peux vous donner un peu moi ce qui m'a le plus marqué dans mon expérience. Moi, je suis une spécialiste de l'apprentissage précoce. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre déjà comment dans le ventre ça commence. Et ce qu'on a bien identifié ces dernières années, c'est à quel point les premières années de la vie, par exemple, dans le développement, sont fondamentales et cruciales dans le développement de nos fonctions cognitives et de nos apprentissages. Ça, c'est peut-être le premier truc qu'a révélé un peu ces neurosciences cognitives, parce que ça nous a permis de comprendre que le cerveau des bébés était très organisé, très sophistiqué, et que grâce à ça, ça permettait un apprentissage très rapide de certaines choses. Et si on manquait de certaines choses comme la parole, comme le jeu, comme l'interaction, et ben ça pouvait avoir des conséquences à long terme qu'on n'arrivait pas trop à récupérer. Ça, c'est quelque chose vraiment que les neurosciences, mais les sciences cognitives dans son ensemble, nous ont révélé ces dernières années. Enfin, ces 20 dernières années. Après, des choses sur lesquelles, voilà, un peu ce que tu disais sur l'idée de confirmer, infirmer. Il y a quelque chose dont on manque cruellement dans l'éducation, c'est un guide. C'est un peu comment on s'oriente, comment on sait qu'on est sur le bon chemin. Alors oui, on a nos intuitions, on a nos observations, mais comment parfois on peut aussi se référer à des principes qui peuvent nous guider. Et il y a du coup, le professeur Stanislas Dehaene qui a donné pas mal de clés de lecture là-dessus dans ses séminaires du Collège de France. On aime ou on n'aime pas, ça a fait en tout cas une base de connaissances scientifiques sur où est-ce qu'on en était là-dessus. Et ça, en tout cas, ça nous a permis d'agir de manière un peu plus précise sur certaines choses. Par exemple, sur l'attention, où c'est un enjeu dans les classes. Où c'est un enjeu tout court, en fait. Même nous, avec nos téléphones portables, c'est un enjeu. Et donc, de comprendre que l'attention, elle se partage pas, que quand on la divise, ça réduit nos compétences d'apprentissage, ça, c'est une chose fondamentale que tous les professeurs, pour ceux qui sont dans la salle, sont obligés de gérer tout le temps. ou sur l'hétérogénéité des classes, l'individualisation de la, des progressions, des parcours apprenants. Ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on a réussi à un peu plus identifier. Pourquoi il y a des vitesses d'apprentissage différentes, de quelle manière, et surtout comment on y pallie, qu'est-ce qu'on doit y mettre? On doit mettre toujours des classes hétérogènes, homogènes. Enfin, voilà. On a pu avancer un peu plus avec la recherche dans son ensemble en sciences cognitives, en psychologie, en sociaux, qui nous ont permis de répondre à ces questions.
Vous avez parlé de dispositifs qui étaient encourageants pour le jeu, pour justement capter l'attention, etc. Et vous avez parlé un moment de jeu. Est-ce qu'on apprend, la première question qu'on peut peut-être se reposer, est-ce qu'on apprend en jouant? Et on peut opposer la futilité apparente du jeu et le sérieux consacré de l'apprentissage. Vous voulez réagir? Donc Christian Schmidt, vous êtes professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine et auteur du livre « Neuroéconomie ».
Alors merci. Oui, alors je vais prendre un exemple passé et très brillant, c'est Leibniz. Et Leibniz, comme vous le savez, s'est passionné pour le jeu. Il avait même le projet de créer une académie des jeux. Et Leibniz, dans son passage à Paris, il est resté 3 ans. Il s'est passionné pour tous les jeux qui se jouaient à l'époque, des jeux anciens qu'on ne connaît plus, Kikenov, etc. Je vous donnerai pas la liste. Et il a une phrase qui m'a frappé, qui rentre tout à fait dans notre débat. Il a remarqué que les hommes sont en général plus ingénieux dans les divertissements que dans les affaires sérieuses et remportent par plus de succès dans les actions que procure un peu plus de plaisir. C'est-à-dire, l'idée étant, il y a un stimulant dans les jeux, il y a une combinaison dans les jeux de 3 facteurs. 1, il y a du raisonnement, même dans les jeux de hasard. Bon, dans les jeux de... Il y a également toujours un affectif, car même s'il n'y a pas de gain matériel, il y a un gain personnel. J'ai gagné, j'ai perdu. Et enfin, il y a une interaction, puisque dans la majorité des gens, on joue contre quelqu'un d'autre, et même quand on joue contre le hasard, on joue contre l'autre. Il n'y a pas qu'un self. Donc, c'est un ensemble extrêmement complet, et c'est pour ça que cet ensemble très complet permet de mieux comprendre, pour les neurosciences, le fonctionnement cérébral dans toutes ses dimensions. Et c'est comme ça que, j'allais dire, les neurosciences ont été assez, un petit peu plus tard que d'autres, mais intéressées, j'en développerai le point plus tard, par des travaux sur certains points particuliers. Par exemple, qu'est-ce que c'est que l'expertise, puisqu'on a parlé d'apprentissage, qu'est-ce que c'est que l'expertise? Est-ce que le cerveau des experts, des gens qui ont une main, est le même que le cerveau des novices? Bon, il y a de travaux récents, très intéressants, pour montrer vraiment des différences précises dans le fonctionnement cérébral. Ça, c'est un facteur important. Autre facteur intéressant, c'est comment cette interaction se produit. Qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux quand nous sommes, on a par exemple dans une expérience bien connue montré que on faisait jouer une personne, vous si vous voulez, le même jeu, c'est un jeu bête, feuille, ciseaux, pierre, bon, en disant vous allez jouer contre un joueur, on le voit pas, mais vous allez jouer contre un ordinateur, et après vous allez jouer contre le hasard. Eh bien, on a observé 3 choses. Premièrement, les gens n'avaient pas du tout la même impression. On interrogeait le joueur, il dit, est-ce que vous avez... Ah non, ils n'avaient pas vécu du tout la même affaire. 2, plus extraordinaire, le résultat qu'ils donnaient n'était pas toujours le même, alors que c'était rigoureusement le même jeu. Et 3, les zones cérébrales, quand on avait fait l'imagerie, n'étaient pas exactement les mêmes dans les 3 cas. Donc, effectivement, c'est un cas tout à fait intéressant. On peut développer chacun des thèmes, notamment qu'est-ce qui fait la différence entre le cerveau d'un novice et le cerveau d'un expert. Alors, schématiquement, j'entrerai pas dans des détails qui vous ennuieraient, zone, etc. Mais il y a une différence centrale, c'est que l'expert fait travailler en même temps le cerveau gauche et le cerveau droit. Toujours. Alors que, généralement, pour un choix stratégique. Alors, l'exemple a été fait sur, disons, des expériences sur des jeux singuliers. C'est-à-dire, on l'a fait essentiellement sur un jeu japonais, qui est un dérivé des échecs, et sur les échecs. Et dans ces deux cas, on a retrouvé la même singularité, l'expert étant quelqu'un qui avait une habitude. Bon, ça c'est voilà une différence intéressante qui est acquise. Bon, autre différence très intéressante, les joueurs développent assez vite, parce que là on a suivi des cohortes d'expérience, des joueurs qui commencent à apprendre, puis qui deviennent, pas des experts, mais enfin deviennent des... ils vont développer beaucoup plus que les autres ce que l'on appelle les facteurs, les zones d'empathie ou les zones. Et qu'est-ce que c'est que l'empathie? C'est pas nécessairement la sympathie. On a de l'empathie pour ses ennemis, mais c'est une possibilité d'imaginer l'autre comme différent de soi. C'est-à-dire, au lieu de projeter ses propres affaires, on bloque les zones cérébrales du self, soi-même, et on commence à imaginer ce que pourrait être l'autre. Alors, les plus forts, au bout d'un certain temps, peuvent non seulement imaginer au deuxième degré, mais au des degrés plus élevés. Donc, imaginez comment l'autre vous imagine. Et ça, c'est typiquement le fait de jeux d'interaction, des jeux de raisonnement, mais avec des facteurs affectifs aussi. Voilà quelques exemples, mais j'ai été trop long.
Non, pas du tout. Et là, on parle du fait, pendant le jeu, d'apprendre le jeu et d'apprendre à maîtriser un jeu. Vincent Berry, est-ce que vous voulez réagir sur ce que vous avez pu observer, vous, de qu'est-ce qu'on apprend dans le jeu, et finalement, ce qu'on a appris dans le jeu, est-ce qu'on arrive ensuite à le conserver en dehors du jeu?
Alors, en fait, vous l'avez dit, ce qui semble important, vous l'avez évoqué, c'est de dire le premier apprentissage qu'on a... dans le jeu, c'est apprendre à jouer le jeu. Alors, tu peux dire merci, quelle belle tautologie, mais ça veut pas rien dire. C'est-à-dire qu'au fond, et on le voit chez les enfants notamment, une des caractéristiques du jeu, c'est ce qu'on appelle la modélisation de l'activité ou le second degré. C'est-à-dire, en fait, on rentre dans une activité qui a un sens différent de ce qu'elle peut sembler être. Donc, ça va être la différence entre la bagarre et la vraie bagarre. Enfin, la bagarre pour jouer et la bagarre. Et là, il y a un processus d'apprentissage qui est clair, mais qui continue au fond par la suite, qui est très visible chez les enfants, puisqu'au départ ils peuvent être troublés par pas comprendre que la grimace qu'il lui a faite c'était une grimace pour jouer, voilà. Donc il y a ce truc fondamental qui est que le premier apprentissage qui est propre au jeu, c'est apprendre à jouer le jeu. Ensuite, c'est quelque chose qui continue à l'âge adulte et on peut tous être confrontés à des formes de jeu dont on n'a pas les dispositions pour les comprendre et on passe par un apprentissage un peu long, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Moi je l'avais observé par exemple sur World of Warcraft, sur les joueurs où les gens pouvaient prendre, enfin dans beaucoup de jeux vidéo, il y a une tradition de la provoque, c'est-à-dire on se dit noob, ça va espèce de noob, c'est-à-dire salut les Kevin, voilà. Et au fond on peut soit mal le prendre en se disant mais pourquoi il me parle comme ça? Et après, comprendre qu'au fond, ça fait partie de l'expérience de jeu. Donc, premier apprentissage et forme de jeu. Ensuite, tenir un discours général sur qu'est-ce qu'on apprend sur le jeu. En fait, je vais botter un peu en touche, mais pas complètement, en disant, en fait, ça dépend. Ça dépend des jeux. Vous avez des jeux où on va mobiliser des compétences sociales très fortes, si on pense aux jeux vidéo massivement multijoueurs, par exemple. Sur d'autres types de jeux, on va développer des connaissances de type mathématiques. Donc, on a plein de... Enfin, selon les jeux, on se rend compte que ça s'appuie sur des savoirs et des compétences qui se construisent, en fait, dans de différentes manières, mais par le dispositif, souvent. Alors ensuite, la question qu'on a, nous, et plutôt qui pose des questions aux didacticiens en sciences de l'éducation, c'est la transférabilité. Et là, on voit la difficulté, et on a un modèle quand même qui se dessine, c'est que...
Est-ce qu'on peut juste dire en deux mots ce que...
La transférabilité, ça veut dire qu'au fond, vous pouvez apprendre à... on va garder l'exemple des jeux massivement multijoueurs. On s'est rendu compte que des gens qui jouent... On joue dans des guildes, hein, des communautés avec d'autres joueurs, on s'est rendu compte que certains... développer des compétences de gestion, des compétences sociales, de gestion de groupe. C'est-à-dire, il faut s'organiser, il faut gérer les soigneurs, les guerriers, et puis donc des phénomènes, des compétences de leadership. Voilà. Et puis, on s'est rendu compte que ce qu'ils pouvaient développer dans le jeu, si on les mettait dans une situation qui mobiliserait les mêmes compétences mais différentes, en fait, ils n'étaient pas capables de les mobiliser. Et qui renvoie à des travaux en anthropologie, de l'éducation, aux travaux, ce qu'on va appeler les théories de l'apprentissage situé, c'est de montrer qu'au fond, on développe des compétences, mais qu'elles sont très souvent liées à un contexte, une situation, et que la transférabilité est pas évidente. Mais parfois, elle existe, hein. Alors, ça marche bien quand vous avez un dispositif de forte simulation, et que vous pouvez vous entraîner à piloter un avion de façon relativement précise, mais quand vous allez, la transférabilité va pas être aussi évidente que ça. Voilà. Donc c'est sur ces modèles-là que la plupart des enquêtes montrent que parfois il y a transférabilité, parfois il y en a pas, et peut-être pour le coup les neurosciences sont capables elles de nous dire, parce qu'en fait c'est pas du tout les mêmes zones ou pas, mais on a ces phénomènes de transférabilité, non transférabilité selon le profil de joueur et selon les types de jeux.
Oui, je voudrais juste reprendre un petit point, pas sur la transférabilité où je n'ai aucune compétence, mais en revanche sur une singularité des jeux. Des jeux de réflexion, qui fait que la manière dont un grand joueur, déjà un joueur professionnel ou un amateur éclairé, formé, va fonctionner, notamment dans un jeu dérivé des échecs, le Goshi, qui est un jeu japonais un peu plus compliqué que les échecs, sur lequel on a fait des expériences neurosciences, et on a vu que son cerveau travaillait de manière extrêmement intéressante parce que presque paradoxale. En général, quand on prend une décision stratégique, on évalue d'abord, on fait une évaluation des avantages en disant si je fais ça, j'aurai ça, mais si je ne le fais pas, j'aurai pas, etc. On a une zone du cerveau qui est une zone d'évaluation stratégique. Puis, on traduit cette zone en choix d'une posture stratégique. C'est-à-dire, je serai attaquant, je serai défenseur. Et bon, en utilisant, bien sûr, la mémoire des coups précédents. Or, les grands joueurs ne fonctionnent pas selon ce modèle. Ce qui est un peu paradoxal, ils commencent, dans les expériences qu'on a faites, des expériences très récentes, ils commencent par choisir une posture stratégique. Et après, évaluent le détail en ayant fait ce choix premier, qui est, je serai dans une position d'actif ou dans une position défenseur, attaquant défenseur.
Et ça,
en premier.
L'imagerie qui le montre.
Oui, l'imagerie montre, ce sont ces zones-là. Les deux zones sont toujours attaquées, mais en principe, c'est dans l'ordre inverse. Donc, il inverse l'ordre des zones. Alors, pourquoi? On pense que, effectivement, dans le jeu qui est indiqué, mais dans la plupart, même déjà dans les échecs, la combinatoire est trop élevée. Donc, ils prennent un système simplificateur. Et le système simplificateur est éclairé parce que la mémoire de l'expert de long terme est très bonne. Donc, il a des repères de mémoire qui lui permettent de choisir sa position stratégique et d'en déduire à ce moment-là une évaluation. Et il joue beaucoup mieux que le novice qui, lui, essaierait tant bien que mal à partir du nombre de pièces. Alors, l'exemple, c'est la discussion de technicien, c'est que le jeu japonais Koki est bien pire que les échecs. C'est des échecs dont la combinatoire est encore plus complexe, donc il y a un débat pour savoir si, dans des jeux plus simples, les experts ont aussi cette transformation. Mais c'est très intéressant parce que ça montre aussi comment fonctionne la mémoire et la sélection mémorielle sur des longues périodes. C'est des mémoires. Alors, plus la période est longue, plus la possibilité d'utiliser ce canal se vérifie. Donc là, on a, me semble-t-il, un apport précis des neurosciences à la compréhension du cerveau grâce à l'expérience sur les jeux, sur des jeux.
Vous vouliez réagir tout à l'heure?
Comme ça, je vais faire une combinaison de ce que j'ai entendu des deux côtés. Non, parce qu'en fait, quand même, dans le jeu, l'idée, c'est de faire des hypothèses sur ce qu'on est en train de, sur la situation dans laquelle on est, pour savoir si cette action ou cette action, elle va avoir le plus de gains. En fait, c'est ça l'idée. Et apprendre, c'est aussi projeter des hypothèses sur le monde en permanence. Donc, si on parlait tout à l'heure du jeu, apprentissage, etc., en fait, le jeu, c'était une condition d'apprentissage percer parce que c'est, on projette quelque chose et puis en fonction du résultat, on adapte ses stratégies. Et du coup, ça me fait un petit peu rebondir sur ce que tu parlais sur la transférabilité, parce qu'en fait, il y a bien quelque chose qu'on a identifié ces dernières années, c'est que l'apprentissage, c'est pas une simple association de dire, ah, là, je gagne des trucs, du coup, je vais par là. Ou là, je gagne rien, du coup, je vais pas par là. C'est pas du tout ça. C'est pas juste une condition d'associative. C'est fini, ça. C'est Pavlov et on l'a balayé, cette chose-là, dans l'apprentissage. C'est parce qu'en fait, on a des modules, des stratégies où on va aller chercher ce qui est le plus bénéfique pour cette condition-là en fonction de ce stimuli-là. C'est pour ça que la transférabilité, on la retrouve pas parce que tout simplement, on fait des projections sur ces choses-là avec ce type de stimuli, mais qui pourra pas se transférer à cet autre type de stimuli. Et là où tu parlais, tu vois, des conditions des aviateurs, parce que là, tu es dans des conditions réelles, avec des vrais stimuli. Du coup, évidemment, tu vas te retrouver dans les mêmes trucs si tu vas dans un vrai cockpit versus un faux cockpit. Mais si tu travailles tes conditions sociales dans un jeu en réseau où t'as pas les gens devant toi, où c'est via des discussions, via des chats, et puis en plus, du coup, tu les connais pas, t'as pas le lien, évidemment, tu vas pas te retrouver dans la même situation si t'arrives en entreprise et que, du coup, tu dois travailler et avoir toutes ces compétences-là. Donc ça, c'est vrai que la transférabilité, elle s'explique à cause des compétences qui sont travaillées et des stimuli qui sont donnés face à ça. Après, il faut juste en être conscient et se dire, bon, bah, super. Et ça, c'est un peu les dérives qu'il peut y avoir sur les neurosciences en ce moment, sur ces idées-là, par rapport à ça. Et je veux revenir sur l'expertise. Et les zones qui s'activent et ceux qui se désactivent. Alors, s'il y a bien quelque chose aussi pareil qu'on a vu ces dernières années, c'est qu'on n'a pas une zone qui s'occupe de ça. On en a plusieurs qui travaillent toutes les unes avec les autres. Et justement, l'expertise et l'expert, le cerveau expert, c'est un cerveau qui va vite, qui traite vite l'information et qui met en lien très rapidement plein d'informations. Donc les experts, en général, ont justement fait tellement de calculs et fait des modèles en eux que du coup, ils vont beaucoup plus vite quand ils voient des combinaisons parce que ça a déjà été intégré dans des modèles mentaux et du coup, ils vont aller chercher plus rapidement une réponse. Donc, typiquement, sur l'expertise, alors ça va vous faire rire parce que on a vraiment fait plein d'expériences là-dessus, sur l'idée par exemple d'être spécialisé pour reconnaître des visages ou pour reconnaître même des pièces de voiture chez les fans de tuning. On se rend compte que dans cette région-là, ces réseaux-là sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus rapides et que l'information va très très vite. Et en fait, le cerveau expert, c'est ça en fait. C'est de faire en sorte que ces réseaux fonctionnent très bien les uns avec les autres en inférant du coup des systèmes où il y a un traitement de l'information très rapide. Et justement, cette idée de transférabilité, elle se pose également en termes d'expertise, puisque être expert, c'est expertise d'un type de domaine, d'un type de stimuli. Et ça me permet juste de revenir un peu sur la première question que tu m'as posée sur les neurosciences. S'il y a bien quelque chose qu'on a aussi identifié, c'était cette idée de talent inné. Cette idée de choses que, en nous, dès qu'on est, on est comme ça. Mozart, il est né avec ce cerveau musical. Einstein, avec ce cerveau de physicien. Et ça, pareil, c'est des choses sur lesquelles, maintenant, il faut les balayer. Un talent, c'est une expertise qu'on a travaillée. C'est des prédispositions, peut-être, ça, on sait pas trop. Mais en tout cas, s'il y a cette idée de talent et d'expertise, c'est, elle se travaille, justement, en sollicitant plein de choses en même temps.
Juste une toute petite remarque. Tout à fait d'accord. Le cerveau travaille en réseau, travaille en communication. On isole certaines zones, mais il est évident que c'est l'interaction et les réseaux qui sont dominants. N'empêche que, paradoxalement, il faut aussi bloquer certaines zones pour réussir. Et c'est ça qui est intéressant dans l'expertise. C'est que, par exemple, pour pouvoir, je reprends l'exemple du début, pour pouvoir penser l'autre différent, il faut bloquer une tension normale qu'est de se penser soi-même. De même, dans le cas que j'ai donné de l'autre cas de l'expertise, qui est original des experts, quand ils choisissent une posture stratégique, ils vont avoir à ce moment-là bloqué tout ce qui est donné, ce qui risque d'être donné et qui créerait un brouillard, une erreur qui serait donnée par la posture stratégique inverse. C'est-à-dire, si vous êtes en posture stratégique d'attaque, ne réfléchissez pas en posture stratégique de défense. Car si vous voulez faire les deux, vous serez battu. En d'autres termes, bien sûr, tout ça, c'est pas une zone, ce sont des réseaux, mais ce système d'aiguillage des réseaux, si je me permets une formule, est extrêmement intéressante. Et justement, on la voit développer grâce aux exemples fournis par les jeux. D'où la pertinence des deux exemples que je vous ai donnés. J'enverrai d'ailleurs un petit papier, un travail que je suis en train de faire, où les différentes expériences précises sont détaillées et discutées.
Plus de réactions les uns envers les autres, non ? là, on a parlé du coup du jeu comme, comme dispositif. Ce que je comprends, ce que j'essaie de comprendre aujourd'hui, c'est que pour vous, le jeu, c'est un dispositif particulièrement intéressant pour le, pour l'apprentissage. Quels seraient peut-être ses défauts en la matière ?
Non, moi, je voulais juste préciser, je pense que c'est un dispositif singulier. Je ne pense pas qu'il soit plus efficace que d'autres formes de... Alors, si on parle de pédagogie, c'est-à-dire que c'est une forme d'activité sociale qui a quelques propriétés qui le distinguent. On a évoqué la question de la fiction, la question du second degré qui est propre au jeu. Après, vous avez quand même une littérature qui s'est beaucoup développée sur l'utilisation, par exemple, des serious games, des jeux sérieux. Voilà. Les méta-analyses dont on dispose... montre qu'en fait l'efficacité est pas redoutable, en fait elle est à peu près vous avez des effets positifs de motivation en fait c'est des résultats très ambigus parce que vous avez en fait des élèves qui sont habituellement moins bons qui sont un peu plus engagés dans l'activité, les bons élèves sous-performent entre guillemets quand tu utilises par rapport à une, de façon comparative par rapport à une pédagogie transmissive. Donc le jeu il a en fait il est intéressant parce qu'il s'inscrit en fait dans une pédagogie active. C'est-à-dire ça, clairement, on voit les effets en général des pédagogies actives et le jeu est une forme parmi d'autres de pédagogie active. Voilà, il se distingue pas là-dessus d'autres formes. Enfin, il existe d'autres formes de pédagogie, que ce soit les pédagogies par projet, qui peuvent fonctionner tout aussi bien. Voilà, c'était juste une petite précision sur les bienfaits du jeu.
Je pense qu'on a tous ces définitions-là du jeu, qu'est-ce que c'est exactement. Peut-être que d'un point de vue plutôt sciences cognitives, neurosciences co, je dirais que c'est en fait un environnement d'apprentissage. Donc on le définit, on dit voilà, ça c'est les règles, ou en tout cas les règles peut-être ne sont pas dites, c'est à nous de les découvrir, et ça va te donner ça, etc. C'est tout un ensemble de choses, c'est un design d'expérience d'apprentissage. Et du coup, de tout ça, on va apprendre plein de choses, la règle du jeu, comment les stratégies, comment se positionner les uns par rapport à l'autre. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on a tous les jours, en fait, le jeu, si on part du principe que c'est projeter des hypothèses et puis voir un peu les réponses. Et justement, tu parles de pédagogie active, bah justement, l'idée d'avoir ces pédagogies actives qui ont un peu plus d'effet que les pédagogies passives de l'ordre du ce qu'on a tous eu peut-être à l'école ou dans les universités, d'écouter un professeur donner son cours. Sans vraiment participer, on sait par exemple que justement quand on est dans des conditions actives de prédiction, on est en train de projeter des hypothèses, c'est là où justement l'information est la mieux ancrée. On retrouve du coup 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois plus tard des effets beaucoup plus forts dans des conditions d'activité où j'ai projeté des hypothèses, donc dans un jeu, pas dans un jeu, enfin peu importe, et après derrière on a des résultats plus positifs. Bon, je sais pas si ça répond à la question ou si ça alimente le débat, mais finalement le jeu c'est peut-être tout le temps. Ça dépend des conditions d'apprentissage.
Oui, Christian. Alors, je voudrais prendre une position un petit peu paradoxale en citant quelque chose que personne n'a dit jusqu'à présent et que pourtant est élémentaire, c'est que les jeux ont donné lieu à une théorie des jeux. C'est un autre avantage des jeux, c'est qu'elle permet une formalisation. Et cette formalisation, justement, des règles, des stratégies, bon, bien sûr, elle est abstraite. Mais cette abstraction est utile aussi pour notre cerveau. En d'autres termes, le fait qu'à l'origine de la théorie des jeux, et ça c'est très précis, von Neumann, Borel, ils ont commencé par travailler sur des jeux. Il y a dans le gros livre de von Neumann, créateur de la théorie des jeux au sens mathématique, il y a de nombreux exemples de jeux, des échecs, du poker, etc. Donc je crois que ça c'est un autre aspect qu'il ne faut pas négliger. C'est la possibilité, bien qu'on on sorte après, la possibilité qu'offre le jeu de formaliser une situation d'interaction. Et pour l'apprentissage, c'est pas nul.
L'autre précaution, j'ai beaucoup de précautions, l'habitude du métier. Non, l'autre précaution, c'est qu'en fait, ce qui est très difficile, c'est de tenir un discours général sur le jeu et l'apprentissage. Et puisque le jeu se décline en fait sous des formes extrêmement diverses. Et surtout, en fait, la question, c'est pour quel type d'apprentissage, alors quel type de compétences, et donc c'est là quand on fait des sciences du jeu, en tout cas des études sur le jeu, on se rend compte de comment certaines formes de jeu ont des effets un peu différents d'autres. Donc c'est juste une précaution pour dire voilà les. Bon, typiquement, j'évoquais les théories en anthropologie, l'apprentissage situé. C'est-à-dire, au fond, c'est un modèle qui consiste à dire les apprentissages se construisent en situation, ce qui renvoie exactement à ce que tu disais, ça renvoie aussi à des identités sociales, c'est-à-dire parce qu'on participe à des pratiques et qu'on a envie de participer, d'avoir une identité locale, on va s'engager dans des formes d'activité. Et typiquement, en fait, il y a beaucoup de travaux. Enfin, une des recherches qui est fondatrice de ce mouvement-là en anthropologie, c'est Jean Lave qui avait travaillé notamment sur des, par exemple, sur des Afro-américaines des milieux populaires aux États-Unis, en montrant qu'en fait, elles géraient par exemple des courses régulièrement. Elles ont des courses à faire sur des budgets relativement limités, et donc elles faisaient leurs courses. Donc elles devaient gérer un budget. Voilà. Mais quand on les mettait en situation scolaire entre guillemets, c'est-à-dire qu'on leur demandait exactement les mêmes opérations, elles étaient plus capables de répondre à l'activité ordinaire. Donc ça renvoie à ces questions de transférabilité, mais ça renvoie aussi à l'idée que si on commence à parler de compétences scolaires ou de savoir scolaire, en fait, les formes de savoir et de compétences que produit le jeu sont très souvent situées. C'est-à-dire, par là, vous pouvez développer, moi je l'avais vu sur World of Warcraft, des jeunes plutôt en décrochage scolaire qui étaient capables de résoudre des problèmes mathématiques pour calculer quelle est la meilleure épée qu'il faut prendre, ce qu'ils appellent leur stuff, faire leur stuff. Mais quand vous regardez, ça mobilisait des compétences pour lesquelles, enfin, des connaissances qu'ils avaient, mais en situation scolaire, ils n'étaient pas capables de les mobiliser. Donc, il y a aussi cette question de quel type de savoir. Donc, soit on dit ils sont pas capables de le transférer, soit on peut dire aussi ils développent. Un collègue, Aymeric Brody, a travaillé là-dessus, notamment sur la notion de mathématiques informelles, c'est-à-dire des savoirs qui sont pas formalisés scolairement, mais qui peuvent être mobilisés pour résoudre des séries d'opérations. Donc c'était une précaution pour dire en fait tout dépend non seulement du type de jeu, mais quels sont les types de savoirs qui sont visés dans le jeu. Et là, on a des effets de effectivement d'ancrage des savoirs dans les pratiques sociales et qui peuvent être différentes de ce qu'on pourrait attendre en milieu scolaire.
Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur ce sujet que vous aviez prévu d'aborder ce soir?
Je peux rebondir sur ce qu'il vient de dire. Tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu viens de positionner. C'est l'idée de la transférabilité, mais c'est l'idée du contexte dans lequel on apprend. Et dans lequel on apprend, du coup, tu le disais très bien, ceux qui sont en décrochage scolaire et qui se retrouvent dans des situations où quand ils sont face à un problème où il y a de la similarité avec ce qu'ils ont pu voir ou développer dans le jeu World of Warcraft, ils sont pas capables de pouvoir le mobiliser tellement. Justement, les contextes d'apprentissage sont hyper importants pour rentrer dans un apprentissage, en fait. Parce que c'est un peu la même étude que vous aviez dit sur l'idée de ce qu'on sait qu'on peut faire ou ce qu'on sait qu'on peut pas faire. Et justement, l'idée du jeu, c'est aussi ça, c'est se dire, bah, finalement, il y a pas trop de notes, j'y vais comme ça, je vais jouer. Il y a pas trop d'attente de résultats, il y a pas trop d'attente d'évaluation, de développement de compétences, de tout ça. Donc c'est peut-être ça dont il faut aussi extraire du jeu, c'est toutes ces contraintes aussi d'apprendre ça, c'est se dire bah finalement dans des choses comme ça on se rend compte que les gens apprennent plus vite et apprennent peut-être des choses de manière plus efficace parce qu'on met pas de contraintes, on met pas d'évaluation, on met pas de, mais on est dans un contexte qui nous permet d'apprendre des choses aussi complexes que des compétences géométriques ou mathématiques comme tu le disais très bien. Donc ça c'est assez intéressant comme comparaison.
Oui, je voudrais revenir sur un autre aspect des jeux qui sont les règles. Alors, c'est très intéressant puisque un jeu n'existe que parce qu'il y a des règles. Même quand on invente un jeu, on invente des règles. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un certain nombre des règles formelles dans des jeux expérimentaux ont donné lieu au viol de ces règles pour des raisons qui sont fondées. L'exemple type dans les domaines des jeux comportementaux, il y a deux exemples, un classique, le jeu du dictateur, le jeu de l'ultimatum. Bon, si les gens étaient strictement rationnels, la règle, c'est qu'ils gagnent chacun le maximum. Donc, le premier qui choisit la règle, il y a une certaine somme, bah, il prend le maximum et il laisse à l'autre. Bah, quand on fait jouer des gens avec ces règles, ils n'optimisent pas d'un point de vue personnel leurs gains. Et ils créent des règles morales supplémentaires. Et ces règles sont tellement fortes que quand un joueur abuserait de ses possibilités, on a joué à d'autres jeux plus complexes, est-ce que les autres joueurs accepteraient eux-mêmes d'être sanctionnés en sanctionnant les autres? Ceux qui n'ont pas joué comme la morale le voudrait, eh bien, ils ont tous accepté la sanction. Donc, il y a tout un travail extrêmement intéressant derrière le jeu qui est les règles et l'acceptabilité des règles.
Et du point de vue de la formation, du point de vue social, ça a une importance considérable. Il y a toute une littérature, non seulement de jeux expérimentaux, mais également anthropologique, parce qu'on a fait jouer le jeu d'ultimatum dans toutes les sociétés, et on a les mêmes résultats. C'est ça qui est extrêmement intéressant.
Et du coup, j'ai pas très bien compris la différence entre les règles du jeu. Et ce que vous disiez, c'est qu'ils étaient contre les règles du jeu. Est-ce que c'est parce que c'est par rapport aux règles implicites, aux règles sociales qu'on a tout appris de manière assez implicite, sans vraiment qu'on nous dise qu'il fallait être
partagé? C'est-à-dire que il y a des règles abstraites et il y a les règles entre guillemets éthiques de ces pratiques. Et les gens, au lieu d'être égoïstes, de dire bah, « je garde le maximum », ne veulent pas de ces règles possibles et ont un comportement fondé sur une règle implicite qui est « tu ne rôleras pas ton voisin, tu seras honnête », etc. Ça, c'est très intéressant parce que le jeu fait émerger ces règles implicites. C'est un des facteurs intéressants justement sur le problème d'apprentissage, c'est l'émergence de règles morales à l'occasion de jeux.
Il y a des hypothèses qui disent que ces règles morales, c'est justement parce qu'on veut le gain le plus optimal et le plus finalement bénéfique à long terme. Ça, c'est intéressant, ça. Justement, ça, c'est vraiment en lien avec ce que vous faites en neuroéconomie, c'est que maintenant, on a des explications un peu plus poussées sur pourquoi il y a justement ce type de comportement et de réaction. Parce qu'en fait, sur du long terme, on y gagnera plus à faire comme ça que si jamais on prend tout de suite.
Peut-être.
Mais je pourrais vous envoyer les références.
Mais ça m'étonnerait que les individus auxquels on a fait jouer ça envisageaient le long terme. Ils envisageaient simplement une certaine morale. Que in fine ça soit bon pour la société, peut-être. Mais dans le court terme, où réagissent les joueurs? Non. Dans le court terme, c'était l'idée, si je me comporte de manière optimale pour moi, pour la société, c'est pas bien, ou pour le voisin, c'est pas bien. Ça peut aller plus loin, on me prendra pour un salaud, etc.
Pour reparler des neurosciences, comment elles peuvent nous aider à mesurer les conditions de succès de l'apprentissage?
En fait, je dirais que les neurosciences en elles-mêmes toutes seules, elles valent rien sans qu'on mette des tests comportementaux pour nous savoir, par exemple, si on a mieux mémorisé cette information là à ce temps T et puis deux semaines plus tard. Je dirais que c'est plutôt une combinaison de ces deux types de modèles, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, les neurosciences cognitives, elles nous permettent de comprendre un peu plus où est-ce que ça se passe, comment ça se passe, mais concrètement, on peut pas voir sur le cerveau, ça a plus imprimé là que là. Il faut qu'on puisse avoir justement plein d'outils qui nous permettent d'accéder à ça. Mais par exemple, pour le jeu, ça me fait penser à l'expérience qui a été faite sur justement plus on est curieux, plus on va apprendre vite. Bon, ça on le sait tous, c'est intuitif, on voit bien que quand on est curieux pour avoir la réponse à une solution, ça on va plus s'en souvenir que d'habitude. Et ce que nous a révélé par exemple certaines expériences, c'était que on avait certaines activations au niveau du circuit de la récompense, donc les centres du plaisir qui s'activaient, donc qui nous créaient ces sentiments de satisfaction quand on avait la réponse, etc., qu'on ressent tous. Et en plus de ça, on avait des activations au niveau du gyrus parahippocampique, donc une partie de l'hippocampe qui est en fait et l'hippocampe, c'est une structure qui est le carrefour de notre mémoire. Et on voyait que du coup, elle s'activait un petit peu plus. Donc en fait, ça nous permettait de corréler en fait les deux choses. C'est on avait ces performances-là de mémoire, plus en fait, on avait une activation comme ça. Donc on faisait le lien entre les deux. Mais une activation toute seule ne vaut rien. Nous, à chaque fois qu'on fait des expériences en IRM, on fait faire des tâches comportementales, plus on enregistre l'activité. Et puis après, on fait des corrélations. On se dit, qu'est-ce qui est lié avec quoi? Et c'est le grand problème en neurosciences, c'est comment on interprète après ces corrélations. Est-ce que ça s'active pas parce qu'on n'est pas bon, ou c'est parce que c'est pas assez mature, plein d'hypothèses. Donc ça, c'est un des gros problèmes de ce type de méthodologie. C'est pour ça qu'il en faut plein. Et pour pouvoir justement arriver à comprendre un peu plus ce qui se passe.
Oui, alors je reprends le problème du circuit de la récompense, qui est un exemple classique que Schulz a mis en évidence. C'est-à-dire que quand on prend une action, on attend un succès, une récompense de son choix. Bon. Et on a un système, un réseau avec le striatum, des parties du cerveau qui sont activées. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'effet négatif quand on répète cela. Et ça donne une zone d'explication, notamment pour certaines dérives. Et ça, puisqu'on est chez les joueurs, c'est les joueurs pathologiques. C'est-à-dire que si vous activez votre cerveau de la récompense de manière continue et que vous allez créer une addiction. Et l'addiction met en évidence quelque chose, un mécanisme cérébral très intéressant, qui est l'anti-circuit de la récompense. C'est-à-dire que vous affaiblissez votre plaisir. comme vous l'affaiblissez, bah, vous voulez l'avoir de plus en plus vite. Et de plus en plus vite, bah, vous avez un mécanisme qui est intéressant, qui rejoint la théorie économique d'ailleurs. C'est une forme bizarre d'addiction rationnelle. Vous êtes rationnel parce que vous voulez en avoir plus, mais comme vos cerveaux vous en donnent moins, bah, vous en prenez de plus en plus. Et il y a des tas d'exemples, non seulement d'addiction, mais même d'addiction au jeu. Moi, j'ai fait différents travaux dans Psychotrope que vous trouverez sur l'addiction rationnelle au jeu. Et également, dans un domaine qui m'est plus familier, il y a un certain nombre de traders qui sont addicts à leur prise de position. Et dans les événements qu'il y a eu, où il y a eu des traders qui ont pris des risques énormes, eh bien, l'explication était mentale par ce phénomène de l'anti-circuit de la récompense. Donc, vous voyez, là-dessus aussi, les neurosciences peuvent apporter des éclairages intéressants. Alors, je dis pas qu'il faut les interpréter, les mettre en... Hein, mais, j'allais dire, on a maintenant un support dans le fonctionnement cérébral de phénomènes qui nous échappaient assez largement.
Est-ce que vous avez l'impression que les acteurs du jeu, les acteurs économiques du jeu, se sont emparés des neurosciences et de ces systèmes-là aussi pour aujourd'hui penser leur jeu ?
Pour les vendre, oui. Pour les vendre, oui. Mais ça, c'est pas spécifique du jeu. Hein. Je pense que c'est spécifique à tout type de dispositif dont on est tous. Enfin, je pense même dans la formation professionnelle. Je pense les objets un peu où c'est un peu connecté au cerveau si on met une électrode. Enfin, tout ce genre de choses, ouais.
Oui, il y a un risque. D'ailleurs, c'est le neuromarketing. Moi, j'ai été marchandisé parce qu'on m'a refusé, mais c'était ça. Il y a effectivement une tendance de dire, bah, très bien, on va pouvoir taper le cerveau pour faire acheter tel produit, etc. Et idem pour les jeux.
En fait, je sais pas, parce que les enquêtes qu'on a, on a développé pas mal d'enquêtes, enfin, ma collègue, notamment Vinciane Zaban, sur les game designers et sur, en fait, ça dépend de qui. Beaucoup de concepteurs et les auteurs de jeux de société sont relativement, enfin, ceux qu'on a interrogés, notamment le secteur de niche en France, sont des gens relativement éloignés de ces questions. C'est des gens qui ont une culture ludique, qui pensent la question du jeu en termes d'expérience, en termes éventuellement de flow. Hein. Vous disiez, certains connaissent ces théories-là. Donc, je veux dire, du point de vue des auteurs, il me semble que c'est peut-être du côté des services marketing qui a la recherche du Graal là-dessus, mais quand on interroge les concepteurs, ils sont... Et puis, moi, les réserves que j'ai hein, quand même à évoquer, ce qui est dire, c'est que il me semble quand même ce qui est sous-jacent derrière les discours qu'on a, c'est le modèle de l'homo economicus, c'est-à-dire au fond, une partie de jeu peut se définir par la recherche d'un intérêt... C'est quand même discutable sur certaines formes de jeux. Vous avez des formes de jeux qui sont des jeux de coopération très forts, à moins de les exclure et de dire que c'est pas du jeu. Mais si vous regardez tout ce qui relève du jeu de faire semblant, notamment chez les petites filles, les jeux de dinette, les jeux, à moins qu'on dise que c'est pas du jeu, mais il me semble que là, le risque d'avoir une définition étroite du jeu, c'est, enfin, en tout cas, de calquer un modèle de joueur sur certaines formes de jeux que vous décrivez très bien, hein, qui est le jeu d'échecs, le jeu de société, c'est de pas voir tout un pan de l'activité ludique qui repose sur d'autres logiques, non seulement qu'on appelle l'agone en anthropologie, c'est-à-dire des logiques de compétition, c'est des logiques de coopération. Et quand vous regardez même le modèle éditorial, un des grands succès du secteur du jeu en ce moment, c'est les escape rooms. Et qui s'appuie complètement sur des logiques de coopération. On n'est pas du tout dans ces logiques-là. Donc, il me semble que il faut être, enfin, évidemment, les neurosciences sont en train de ont un succès important. On est en éducation, mais aussi pour des raisons politiques. Mais dans le champ du jeu, on voit bien un intérêt des industries. Mais du point de vue des auteurs, il me semble qu'ils ont une vision très large du jeu, en s'intéressant plutôt à la notion d'expérience et de flow, plutôt que d'un profil de joueur.
Non, mais par contre, ce que je pense que ça peut apporter, c'est un peu plus décrypter ce qui se passe pendant le jeu. Tu vois, c'est ouais. Par exemple, bah, comment ça se fait que là, tout d'un coup, ce jeu-là, ça provoque beaucoup d'engouement, beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'il y a en fait, quel ingrédient il y a ? Donc, on va aller décortiquer ce qu'il y a à l'intérieur pour essayer de se dire, bon bah génial, si ça marche bien et qu'en plus de ça, on peut développer des compétences sociales et tout ça, c'est super. Donc, je pense qu'il y a aussi un vrai enjeu pour valoriser le jeu en décryptant tous les processus et les mécanismes qui sont derrière, pour permettre aussi aux parents ou même à un adulte de dire, ah bah ce jeu là qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je vais un peu travailler, qu'est-ce que, par curiosité, et puis aussi parfois par enjeu pédagogique, parce que là j'étais à une conférence aux États-Unis l'année dernière sur le système des applis, les head apps, les applications éducation pour les enfants. Donc c'est plein de jeux. Donc c'est par exemple, je sais pas, je vais changer la couleur des cheveux de ce personnage. Ok, super. Et puis d'autres qui vont être sur cette fois-ci, bah justement, calculer des quantités, se dire c'est pas beaucoup, c'est beaucoup. Et ça, pour un parent, bah, ça fait une différence en termes d'apprentissage et justement de d'éducation, en fait. Moi, je veux bien des jeux pour s'amuser. C'est génial, ça permet d'augmenter la créativité. Mais par contre, si on dit que c'est un jeu pour apprendre les maths et que derrière, on change les cheveux, bon, il n'y a pas d'enjeu pédagogique derrière, et autant le dire. Il faut de tous, juste essayons un peu plus de catégoriser pour mettre un peu plus de valeur aussi pédagogique à certains produits, pour permettre que ça soit un guide pour les parents, aussi même un guide pour les enfants, pour se dire « ah bah qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Parce que plus on a un objectif pédagogique précis, plus on apprend plus rapidement et facilement. Donc il y a aussi tout cet enjeu de décortiquer pour savoir qu'est-ce qui est le meilleur, pour aussi donner un peu plus de valeur à ça en fait. Parce que sinon c'est un peu trop écrasé par des, par justement un peu de tout, et on n'a pas trop de... On sait pas trop comment se situer ou quoi choisir.
Oui, non, mais là, c'est un, enfin, on va pas, mais c'est, en fait, c'est des enjeux de catégorie. C'est-à-dire qu'en fait, un des problèmes qu'auront les neurosciences, comme toutes les sciences sociales avant, qui sont intéressées au jeu, c'est la question de la délimitation de la notion de jeu. Et moi, qui, enfin, sociologue, je fais des enquêtes, beaucoup d'enquêtes statistiques. En fait, vous avez un paradoxe. C'est-à-dire que vous-même, quand vous devez délimiter le jeu, c'est compliqué. Est-ce que, si vous intéressez au jeu des enfants, est-ce que vous allez jusqu'à regarder les grimaces qui se font? Est-ce que vous le mettez, le jeu des grimaces, je te tiens, tu me tiens par là? Donc c'est infini. Mais le pire, c'est que vous avez des jeux, quand vous demandez aux gens s'ils sont joueurs, les gens vous disent non, moi j'ai horreur du jeu. Et donc, si vous allez chercher des pratiques comme le sudoku, les mots croisés, qui sont gigantesques en France, les gens vont vous dire ah ouais effectivement oui je joue à ça. Et donc il y a un vrai enjeu épistémologique et méthodologique, c'est qu'est-ce qu'on va définir dans le jeu et qu'est-ce qu'on va regrouper derrière cette catégorie là.
Oui, mais d'une certaine manière, moi je reprendrai une définition très ancienne du mathématicien De Pocelle, qui était un élève de Borel et qui disait dans tout jeu il y a au moins trois composantes, quelles qu'elles soient. Il y a la réflexion, il y a le hasard, puis il avait une troisième catégorie tout à fait passionnante, la ruse. Et il y a, même s'il y a une dominante, il faut qu'il, dans toutes les constructions de jeux, même dans les nouveaux jeux, il y aura toujours les trois composantes. Alors certaines sont apparentes, d'autres cachées, mais elles sont nécessaires au fonctionnement même du jeu. Ça serait intéressant de le tester et de comprendre mieux ce que c'est que la troisième composante. La ruse.
À ce sujet-là, il y a la première conférence du Gaming Lab, c'était en juin, je crois, hein. La toute première en introduction, la table ronde, qui avait essayé justement d'aborder la notion de la définition du jeu et de comment tenter de le circonscrire, en aboutissant bien évidemment à la conclusion que c'était autant d'école, mais pas de réponse définitive. Est-ce que vous avez porté des espoirs? Aujourd'hui, on a essayé de mettre autour de la table les neurosciences, l'apprentissage, le jeu. Est-ce qu'il y a le fait d'avoir mis ces trois aspects dans la même marmite? Est-ce que vous avez une question de votre domaine particulier de recherche que vous espérez pouvoir trouver une réponse grâce aux neurosciences?
Bah, moi, je dirais un peu plus délimiter peut-être ce champ d'un point de vue de compétences et de fonctions qui sont sollicitées dans le jeu, que ça permettrait de savoir, de valoriser encore plus cet objet comme un outil pédagogique, peut-être. Et c'est peut-être ce truc de dire non, je joue pas, parce que quand on joue, ça veut dire qu'on est un feignant ou j'en sais rien, qu'on veut juste s'amuser, quoi. Alors que finalement, le jeu, c'est apprendre plein de nouvelles choses. Donc, bon, c'est peut-être ça, la première chose. Et deuxièmement, c'est évaluer justement l'impact de l'apprentissage, évaluer ce qui est en train de se passer pour aussi, pareil, permettre aux personnes qui sont en train de jouer à ces jeux-là à se dire bah qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, qu'est-ce que je suis en train de développer, parce que ça, ce sont des outils très très précieux à la montée en compétences, la montée en confiance en soi, et par exemple pour des enfants qui sont en décrochage scolaire, de peut-être passer par ça comme méthodologie, ou je sais pas, il y a plein d'outils qu'on pourrait un peu, donc je dirais ouais, un, connaissance, et deux, évaluation.
Moi, je prendrais l'affaire aux deux bouts. D'un côté, il y a effectivement des progrès à faire dans les neurosciences sur ces problèmes de connexion qui sont parfois pas très clairs, les problèmes de timing, par exemple, combien de temps faut-il pour que, etc. Donc, il y a toute une série de problèmes techniques à éclaircir et élucider. Mais à l'autre extrême, je pense qu'il serait intéressant que nous pensions nos activités en forme de jeu. C'est-à-dire que on ne réserve pas le domaine du jeu au domaine circonscrit. Je crois qu'il est intéressant, et ça nous fait prendre à la fois une distance et une empathie, de penser nos situations en termes de jeu.
Non, moi je dirais alors les enjeux, donc je suis absolument pas dans les neurosciences. Ce que je vois, c'est que ces questions de transférabilité, moi, elles m'intéressent, et je me demande ce que vous pouvez en dire, c'est-à-dire de voir est-ce que quand on pilote un avion en flight simulator, et qu'est-ce qui, enfin voilà, donc je pense qu'il y a des éléments intéressants. Après, moi la question, c'est la façon plutôt dont les étudiants vont. Quelques étudiants ici, dont on a des dispositions au jeu. C'est qu'il me semble qu'il reste ce travail de sociologie, d'anthropologie sur l'idée que le jeu est un dispositif, parmi d'autres, hein, comme le cinéma. Enfin, il y a des formes de jeu, des formes de dispositifs, mais sur quelles dispositions il s'appuie pour qu'on s'engage dedans. Et le risque, c'est que si c'était un dispositif miraculeux, tout le monde jouerait, en fait, à certains types de jeux. Or, c'est pas, quand on fait des observations, on a des goûts et des dégoûts pour certaines formes de jeux. Donc, il me semble qu'il reste un travail important, d'analyse, de la construction du goût, de la, ce que j'appelle la culture ludique, hein, c'est-à-dire à la fois une capacité à s'engager dans certaines formes de jeux, à savoir les comprendre, y agir de façon adaptée. Hein. Le nombre de fois on a joué à des jeux, puis on était complètement à côté. Ça m'est arrivé plein de fois, j'ai pas compris les règles. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a des dispositions. On le voit bien que les dispositions garçon-fille sont très importantes et que quand on joue avec une fille et quand on est un garçon, on est pas nécessairement tout le temps, mais on est quand même moins bon pour jouer. Et donc, il y a ces effets de comment se construisent des dispositions. Et il me semble que là, donc la question que j'adresserai aux neurosciences, c'est de dire au fond, sur quoi ça s'appuie, sur quoi un jeu s'appuie pour être joué. Voilà. Je pense qu'il s'appuie sur des dispositions, sauf quand on est enfant, mais là, c'est vraiment quelque chose de... Donc, il me semble qu'il y a ce travail-là d'analyse des dispositions au jeu qui reste à faire, du point de vue sociologique, mais aussi des neurosciences.
Merci d'avoir écouté cette conférence jusqu'ici. La séance de questions-réponses avec le public n'a malheureusement pas pu être enregistrée, faute du matériel adéquat. Si vous avez aimé cet épisode, ou si vous souhaitez y réagir, faites-le nous savoir et partagez-le autour de vous. On se retrouve très vite pour les formats d'émissions plus habituels, et d'ici là, jouez bien !